savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéré.
Le cinéma est plus harmonieux que la vie, entend-on dans ce générique. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, pas de temps mort. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
Cette voix que l'on entend, c'est celle de François Truffaut qui interprète le rôle du cinéaste dans La Nuit américaine. Homme cinéma, pourrait-on dire, tant il a trouvé refuge dans les salles obscures pendant une enfance et une adolescence chaotiques, et tant il faisait de ses films des refuges et des hymnes à l'amour. La semaine dernière, nous évoquions l'œuvre de Jean-Luc Godard, grande figure, inventeur de formes de la nouvelle vague. Ce samedi, nous vous racontons François Truffaut, son frère spirituel, devenu frère ennemi, ancien critique comme lui, au cahier du cinéma, révolutionnaire aussi de la nouvelle vague avec les 400 coups.
Allez, moteur,
allez,
prenez, allons-y.
La chaîne Arte a consacré un cycle à François Truffaut et vient de sortir un coffret DVD, 8 films restaurés, réalisés entre 1968, La mariée était en noir, et 1978, La chambre verte.
Le cinéma, c'est comme l'amour, le cinéma me fait souffrir et il est mon plaisir en même temps. C'est lié, vous savez, on ne peut pas séparer les choses, c'est à la fois la joie et la souffrance. Beaucoup de joie quand même.
Olivier Père, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général d'Arte France, directeur de l'unité...
d'Arte France Cinéma.
Arte France Cinéma.
C'est déjà bien.
Directeur de l'unité donc cinéma. Vous avez présidé à la restauration de 8 de ces films de François Truffaut. Parmi cet ensemble, il y a des films qui ont connu un grand succès en salle dès leur sortie. Je pense à L'Enfant Sauvage ou L'Argent de Poche. D'autres qui sont considérés comme des films... plus malade.
Ou des échecs. Oui, on oublie que dans la carrière de Truffaut, il y a eu finalement plus d'échecs que de grands succès. Les grands succès, c'est Les 400 coups, c'est Le Dernier Métro. Mais il y a aussi des films qui, à l'époque de leur sortie, ont été des gros échecs commerciaux et même parfois des échecs critiques et qui, évidemment, avec le temps, ont été réévalués pour presque tous.
Et alors, donc, vous en avez diffusé certains de ces films du coffret déjà là sur Arte. Mmh. Gros succès d'audience?
Oui, c'est vrai qu'on a diffusé le mois dernier certains des films qu'on retrouve dans le coffret, La sirène du Mississippi, La mariée était en noir, L'homme qui aimait les femmes, L'histoire d'Adèle H, dans les versions restaurées, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, ces films n'avaient jamais bénéficié d'une restauration, ils étaient disponibles dans des très mauvaises copies DVD, et donc là, on a pu les revoir dans toute leur splendeur, et c'est vrai que le cycle à l'antenne a été un gros succès d'audience, preuve que les gens, les spectateurs, pas seulement les cinéphiles sont restés très attachés à l'œuvre de ce cinéaste.
Parce qu'on a beaucoup glosé au printemps lors du premier confinement sur le succès à la télévision des films avec Louis de Funès par exemple. Est-ce que on constate là avec le succès d'audience de ces films de Truffaut que Truffaut aussi une sorte de valeur refuge?
Oui, alors c'est pas tout à fait la même chose parce que c'est vrai qu'on a constaté pendant le confinement à quel point certains films populaires pouvaient avoir une fonction consolatrice finalement. Et ça a été un peu la stratégie de beaucoup de chaînes du service public et d'autres de montrer des films drôles, des grandes comédies, des grandes classiques du comédien, évidemment Louis de Funès en tête, ou qui sont des valeurs refuges et qui permettent aux gens un peu d'oublier les soucis de la vie quotidienne, surtout en ce moment. À Arte, on n'a pas souhaité bouleverser notre grille ou notre ligne éditoriale en fonction des événements de cette année, puisqu'on a toujours été fidèle à une certaine idée de ce qu'on veut montrer à l'antenne. Bon, je parle du cinéma, mais ça concerne aussi les autres programmes, c'est-à-dire toujours des classiques, des grands films, et ça n'exclut pas des films qui sont aussi des films populaires. Voilà, il y a des grands auteurs populaires, il y a des autres grands auteurs qui le sont moins, on montre les deux, et je pense que Truffaut fait justement partie de ces grands auteurs, de ces grands cinéastes populaires, qui ont toujours eu un lien très fort avec le public, même quand les films marchaient pas, il a eu la chance de pouvoir enchaîner film sur film aussi, et donc de toujours se refaire un petit peu quand un film marchait pas, le suivant avait plus de chances de réussir, et c'était souvent imprévisible, parce que La Sirène du Mississippi, qui est un film à gros budget avec Jean-Paul Belmondo et Catherine Deneuve, donc vraiment deux stars déjà à l'époque, est un flop quand le film sort, et il enchaîne avec L'Enfant Sauvage, qui est un film en noir et blanc, sur un sujet difficile, sans aucune vedette.
Donc Victor de l'Aveyron, un film d'époque.
Est un succès mondial, est un immense succès en France et dans le monde entier.
À votre avis, Olivier Père, qu'est-ce qui nous accroche tant, toute génération confondue, à Truffaut? Parce que Sophie parlait de la nouvelle vague tout à l'heure, mais bon, c'est clairement le plus célèbre des cinq jeunes Turcs. Il est célèbre à l'international. Je pense qu'il y a très peu de cinéastes français si connus dans le monde.
Oui, c'est vrai. Alors en même temps, Godard aussi est très connu dans le monde entier.
Peut-être que ces films sont moins vus.
Chabrol aussi, Romer aussi. Ils ont réussi à constituer un public de fidèles. C'est vrai que Truffaut, lui, il visait beaucoup plus large. Il visait pas des chapelles de cinéphiles. Il visait pas des spécialistes du cinéma. Il avait vraiment envie de s'adresser à tout le monde. Il pensait vraiment ses films, comment le public va réagir. En ça, c'était vraiment un disciple de Lubitsch ou d'Hitchcock ou des grands cinéastes américains. Il était très préoccupé par la manière dont les gens recevaient et comprenaient ses films. Ça n'empêche pas que tous ses films sont extrêmement personnels. Je pense que si on est autant attaché aux films de Truffaut, c'est parce que quel que soit le sujet, quelles que soient les stars qu'on voit dans le film, on a vraiment l'impression que c'est lui qui s'adresse à nous. Voilà, il a jamais fait un film de genre ou un film commercial ou un film qui ne venait pas profondément d'un désir ou d'une envie. Alors même s'il était très méticuleux, qui compartimentait comme ça sa vie, son œuvre, qu'il abordait chaque fois, il voulait faire un film sur un sujet, il se renseignait. Mais c'était vraiment, comme il le dit, un mélange de passion, de fièvre, d'enthousiasme. Parfois ça se passait dans la douleur, parfois dans le bonheur. Mais quand on voit tous ces films, c'est vraiment quelqu'un qui s'adresse à nous, qui nous parle de l'enfance, qui nous parle de l'adolescence, qui nous parle de la passion amoureuse, qui nous parle de la mort. Bon, que des choses qui concernent tout le monde, quoi, sans aucune exception.
Vous évoquez dans le livret accompagnant le coffret à DVD, hein, Olivier Père, qu'un bon balsacien, François Truffaut, savait ces films reliés par des courants souterrains, des lignes de force. Parmi celles-ci, son amour, on l'entendait aussi au début de cette émission, son admiration des femmes, et c'est vrai évidemment des Jules et Jim en 1962, et sa façon de filmer Jeanne Moreau.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
Voilà, Jeanne Moreau, hein, chantant le tourbillon dans Jules et Jim. On parle de François Truffaut ce samedi dans tous les cinémas du monde, avec un premier thème qu'on a envie d'aborder, évidemment, c'est son rapport aux femmes.
Faisant des films d'amour, je considère que les femmes sont des professionnelles de l'amour, tandis que les hommes sont des amateurs, vous voyez. Je crois que les hommes vivent leurs histoires d'amour sans les analyser, parce qu'ils sont préoccupés davantage par leur position sociale, par leur travail, et que les coups, heureux ou malheureux en amour, leur arrivent brusquement, sans qu'ils aient eu le temps d'y penser. Tandis que je crois qu'une femme, heureuse ou malheureuse, est constamment en train d'analyser son amour. Qu'elle soit mariée, qu'elle soit célibataire, elle est en train de dire « Tiens, ça va bien en ce moment avec mon mari, tiens, ça ne va pas, je devrais faire ci, je devrais faire ça. » Elle en parle avec des amis. Autrement dit, elles sont professionnelles et nous sommes des amateurs. C'est ce que je montre dans les films. Mais ça ne plaît pas toujours aux hommes qui ne se reconnaissent pas parce qu'ils trouvent que je peins des hommes trop faibles. Les hommes se voient tous beaucoup plus forts, à mon avis, beaucoup plus forts qu'ils ne sont. Moi, je ne les trouve pas forts du tout. Mais toujours est-il que, évidemment, à cause de ça, probablement les femmes aiment mieux mes films que les hommes.
Pour moi, rien n'est plus beau à regarder qu'une femme en train de marcher pourvu qu'elle soit habillée d'une robe ou d'une jupe qui bouge au rythme de sa marche. Il y a celle qui file rapidement vers un but, peut-être vers un rendez-vous. Il y a celle qui se promène avec sur le visage un air de loisir. Certaines sont si belles vues de dos que je retarde le moment d'arriver à leur hauteur pour ne pas être déçu. À vrai dire, je ne suis jamais déçu, parce que celles qui sont belles de dos et moches de face me donnent une sensation de soulagement, puisque malheureusement, il n'est pas question de les avoir toutes. Elles sont des milliers tous les jours à marcher dans les rues. Mais qui sont toutes ces femmes? Où vont-elles? À quel rendez-vous? Si leur cœur est libre, alors leur corps est à prendre, et il me semble que je n'ai pas le droit de laisser passer la chance. La vérité, je vais vous la dire, elles veulent la même chose que moi. Elles veulent l'amour. Tout le monde veut l'amour. Toutes sortes d'amour. L'amour physique et l'amour sentimental. Ou même simplement la tendresse désintéressée de quelqu'un qui a choisi quelqu'un d'autre pour la vie et ne regarde plus personne. Je n'en suis pas là, moi. Je regarde tout le monde. Une belle jambe, c'est très beau. Mais je ne suis pas ennemi des chevilles épaisses. Je peux même dire qu'elles m'attirent. Car elles sont la promesse d'un évasement plus harmonieux en remontant le long de la jambe. Les jambes de femmes sont des compas qui arpentent le globe terrestre en tous sens, lui donnant son équilibre et son harmonie.
Voilà, Olivier Père, on a d'abord entendu la voix de François Truffaut, les femmes sont des professionnelles de l'amour. Et là, une petite incise, hein, d'ailleurs, c'est dans un documentaire à retrouver sur le site arte.tv. Puis un extrait de L'Homme qui aimait les femmes, avec la voix de Charles Denner, qui dans ce film est une sorte de double de Truffaut.
Oui, pas sûr en fait. Je me pose la question, on revoit sans cesse ce film, c'est un film que beaucoup de gens adorent, c'est un film très important dans son œuvre. Je ne sais pas vraiment si c'est son double, parce que d'une part, il a fait beaucoup de recherches sur le sujet, une fois de plus, il s'est même renseigné auprès de grands dragueurs, de grands séducteurs, alors que lui-même en était un, enfin lui aussi. On sait très bien que Truffaut était un homme à femmes, qu'il adorait les femmes, qu'il a eu de nombreuses conquêtes et de nombreuses grandes histoires d'amour, mais il a quand même eu besoin de prendre une certaine distance par rapport à son sujet. Et ça, c'est vraiment intéressant. D'autre part, pourquoi est-ce qu'il n'a pas interprété lui-même le rôle? Quand il fait La Nuit américaine et que là, il y a un personnage de réalisateur, c'est lui qui joue le réalisateur. Là, il a pris Charles Denner, qui est à l'opposé du playboy ou du dragueur ou du séducteur, par son physique, par son façon de parler. Je pense qu'il y a une grande part d'autocritique ou de critique dans ce film. On le revoit, alors évidemment, les films traversent le temps, ils vieillissent avec nous, et puis on les voit différemment suivant les époques. C'est quand on revoit le film aujourd'hui, c'est pas du tout le portrait d'un prédateur ou d'un dragueur ou d'un. Il y a évidemment cette idée de vouloir toutes les femmes et d'être attiré comme ça.
Il y a un côté fétichiste.
Voilà, il y a un fétichisme,
hein,
qu'on entend très bien dans l'extrait.
Je crois que dans cet extrait que vous avez diffusé, il est dans un soupirail et donc il a une espèce de vision bloquée.
Oui.
Enfin, la vision bloquée du fétichiste.
C'est une fois de plus quelque chose qui revient souvent dans l'œuvre de Truffaut, le portrait d'un monomaniaque, le portrait d'un obsessionnel. Il y a des monomaniaques de la mort, il y a des monomaniaques de la passion, comme Adèle H. Là, lui, c'est un monomaniaque, comme ça, de la conquête féminine. Mais c'est le portrait, j'allais dire, c'est presque le portrait d'un fou. Il y a d'ailleurs des liens entre ce film et l'œuvre de Buñuel. Il y a même une scène de rêve où se retrouve transformé en mannequin, hein, comme dans La Vie criminelle d'Archibald de la Cruz. Et je pense que c'est un film faussement gay. Je pense que Truffaut lui-même avait été surpris au montage. Il avait l'impression d'avoir tourner une comédie, et en montant le film, il se rendait compte que le film n'était pas si drôle que ça, et qu'il y avait un motif qui traversait le film, qui était vraiment celui de la mort. hein, puisque ça on dévoile pas la fin pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais tout au long du film, comme ça, il y a des signaux que ce personnage, il court après les femmes, mais il court aussi après sa propre mort. Et il y a aussi quelque chose de très intéressant dans l'œuvre de Truffaut. Alors c'est vrai que nombreux sont les grands cinéastes qui ont voué un culte ou une fascination ou une admiration pour les femmes, qui étaient soit leurs égéries, soit des icônes. Ce qui est très beau chez Truffaut, c'est que au-delà de son amour pour les femmes, il y a une identification. C'est-à-dire que quand on regarde les grands films d'amour comme La Sirène du Mississippi ou La Femme d'à côté ou plein d'autres films, ou même des films de femmes criminelles comme la mariée était en noir, en fait Truffaut s'identifie au personnage féminin. Il est Catherine Deneuve, il n'est pas Jean-Paul Belmondo dans La Sirène du Mississippi. C'est-à-dire qu'il est toute cette part d'anciens délinquants, il faut bien le dire, hein, de garçons qui auraient pu comme ça basculer du mauvais côté. Il a transposé comme ça des moments de son adolescence dans des personnages féminins qui peuvent être Catherine Deneuve dans la Sirène du Mississippi, qui raconte comment elle est allée en maison de redressement. Enfin, c'est une vraie délinquante dans le film. Ou sur un mode beaucoup plus comique et burlesque, Bernadette Lafont dans une belle fille comme moi, qui est elle aussi comme il disait, les femmes voyous, quoi.
Oui, il y a des beaux portraits de femmes, hein, dans cette collection de 8 films, hein, de ce coffret DVD. Il y a La mariée était en noir, avec de nouveau Jeanne Moreau, mais là qui est une sorte de Diane Chasseresse, enfin en tout cas qui une sorte de Monte Cristo au féminin,
un drôle de personnage, très,
qui va
très
comme
étrange,
ça
ouais.
méthodiquement rechercher les meurtriers accidentels de son mari. Ça, c'était aussi un gros succès, je crois, 2 millions de spectateurs récemment.
Alors, énorme succès à la télévision, jamais démenti, là on l'a rediffusé, presque 2 millions de téléspectateurs. Je crois que le film avait bien marché à l'époque, et en revanche, c'était le film que Truffaut aimait le moins. Enfin, il n'était pas du tout satisfait du film. Il trouvait que il aimait pas le film.
Pourquoi? Parce que c'était une adaptation.
C'est un film problématique, je trouve. Hein. Il est passionnant, il est toujours intéressant à regarder, mais c'est toujours compliqué quand Truffaut, cinéaste, revient du côté du Truffaut cinéphile et qui veut rendre hommage à ses maîtres. Parce que là, de toute évidence, c'est un hommage à Hitchcock.
Il y a le compositeur, Bernard Herrmann.
La musique. C'est d'après un roman américain de William Irish qui avait été adapté par Hitchcock pour Fenêtre sur cour. Donc il y a un matériau qui est totalement américain. Une histoire de vengeance, des crimes, tout ça est très américain, mais c'est transposé dans la France, hein, dans la France de 68. Donc c'est pas du tout le glamour hollywoodien par le choix des acteurs. Même Jeanne Moreau, voilà, n'est pas la femme fatale ou la star.
C'est pas
Brigitte Bardot. C'est pas non plus Lorraine Bacall ou Grace Kelly. Et il y a quelque chose. Alors, c'est vrai que Truffaut recherchait l'harmonie. Hein. Il recherchait l'harmonie, il recherchait une forme de classicisme. Et dans beaucoup de ses films, cette harmonie, ce classicisme est vraiment contrarié. Il est vraiment travaillé par des pulsions contraires. On a l'impression que il veut faire quelque chose et en même temps, il se rend compte qu'il ne peut pas le faire ou c'est pas dans sa nature. Et par exemple, Truffaut détestait la violence, alors que son grand maître, c'était Hitchcock, quoi, qui a filmé de nombreuses scènes de meurtre. Et Truffaut détestait, en tout cas, refusait de catégoriser ses personnages, d'un côté les bons, d'un côté les méchants. Donc finalement, même La mariée était en noir, qui est un film de vengeance, elle se venge de types qui sont plutôt des personnages pathétiques, mais qui sont pas des méchants. Donc c'est très bien expliqué d'ailleurs par Serge Bozon, parce que dans le coffret, il y a un livret où des cinéastes français reviennent un peu sur ces films. Et donc il y a ce double paradoxe comme ça, de faire un film américain alors qu'on est en France, donc ça pose plein de problèmes, et de faire un film sur le crime, sur la vengeance, alors que finalement elle se venge de pauvres types, mais une telle violence n'est pas forcément légitimée. Donc on est plus du côté, une fois de plus, de l'obsession, de la monomanie. Il y a une obsession de la vengeance, comme il y a une obsession de plein d'autres choses dans les films de Truffaut.
Et ces ambiguïtés, ces ambivalences dont vous parlez, c'est assez manifeste aussi dans un film dont vous avez déjà évoqué, La Sirène du Mississippi.
Si je te pose des questions, tu me réponds?
Oui.
Tu aimais beaucoup de garçons?
Oui.
Pourquoi ça s'arrêtait?
Quelquefois je partais, d'autres fois c'est eux qui sont partis.
Tu as des enfants?
Non, mais...
T'as failli en avoir?
Oui. Mais je n'en voulais pas. Alors?
Plusieurs fois.
Oui.
C'était triste?
Triste et lamentable. Ça ne se passe pas toujours bien. Et quelquefois, je me suis dit que je ne ferai plus jamais l'amour. Ou que je ne laisserai plus jamais personne me toucher. Et puis on oublie. Heureusement. Pose-moi d'autres questions.
Non.
Toi, tu es plus sérieux que moi. Et puis tu n'as pas souffert. Enfin, pas pareil. Tu as aimé les filles?
Une seule.
Une seule? C'était important alors. Quel âge elle avait?
23 et moi 26.
Et pourquoi ça n'a pas marché? Tu as sûrement voulu l'épouser? Elle n'a pas voulu?
Non, parlons d'autre chose. Cette personne est morte.
Voilà, Olivier Père, un extrait de La Sirène du Mississippi, Belmondo, Deneuve, un mélodrame et un film d'aventure, un film un peu hybride. Là, cette séquence où ce sont deux amoureux qui se parlent, en fait, elle intervient à peu près à 1h10 du film, alors qu'ils ont déjà été mariés, il y a eu déjà 1000 péripéties. Dans le livret justement qui accompagne le coffret DVD, je crois que c'est Toubena cité par Catherine Corsini qui dit que c'est un grand film malade.
C'est un grand film malade en référence à justement Truffaut critique qui parlait des derniers films d'Hitchcock comme Pas de printemps pour Marnie par exemple, qui était considéré comme un grand film malade, c'est-à-dire le grand film d'un grand réalisateur, mais où quelque chose est un peu cassé, un peu ne fonctionne pas, peut-être parce que le cinéaste va trop loin et donc il perd en efficacité ce qu'il gagne en sincérité ou en tout cas en mise à nu, et donc c'est souvent des films qui ne trouvent pas leur public au moment de leur sortie et qui sont attaqués par la critique. Moi, c'est un film qui me bouleverse rien que d'entendre ce dialogue. C'est un dialogue magnifique que Truffaut écrivait la veille pour le lendemain, un peu comme Godard. Et pourtant, il y a une poésie incroyable dans ce dialogue. C'est un film qui encore aujourd'hui divise. Truffaut lui-même n'était pas content du film. Au-delà de son échec critique, il avait des problèmes avec ce film. Il était très très sévère avec son propre travail. Mais encore aujourd'hui, voilà, il y a vraiment les Truffaldiens ont tous un peu leur courant secret ou leur période préférée. Il y a même des cinéastes qui m'ont dit, voilà, sur cette période-là, j'aime pas les films, je préférerais parler de Jules et Jim ou des 400 coups, ou d'autres au contraire. Moi, j'étais très heureux de pouvoir trouver en Arnaud Desplechin un admirateur fou de ce film, autant que moi, qui en parle très bien dans le livret, parce que, bon, c'est un grand film d'amour fou, c'est un film, effectivement, avec beaucoup de péripéties. Ça mélange le mélo, le roman photo, le polar, la série noire.
Avec un contre-emploi à l'époque, en tout cas pour Jean-Paul Belmondo.
Et le truc génial dans le film, c'est justement ce contre-emploi et cette inversion. Pas seulement un contre-emploi, mais une inversion. C'est-à-dire que Jean-Paul Belmondo, qui déjà à l'époque est une star et représente vraiment la virilité, la décontraction masculine, enfin une forme d'assurance absolue, il en fait un célibataire très très timide. On devine même, on peut même imaginer dans le film qu'il est vierge, que c'est lui le puceau, la princesse qui va trouver le prince charmant. Et là, il inverse les rôles, parce que Catherine Deneuve, au contraire, c'est l'aventurière, c'est elle qui a connu plein d'hommes, qui a fait de la prison, qui peut se transformer en criminelle, en meurtrière. Donc cette inversion est absolument sidérante. Ça marche parfaitement bien avec Deneuve, évidemment. Il y a une rencontre à la fois sur le plan amoureux et sur le plan artistique qui est total à l'époque du tournage du film. On peut même dire que c'est la co-autrice du film. Avec Belmondo, moi je le trouve magnifique dans le film. Il y a encore des réticences parce que, bien entendu, c'est pas du tout un personnage ou un acteur, c'est pas du tout un acteur truffaldien. C'est pas du tout un acteur truffaldien parce que justement il a pas cette part de féminité que peut avoir Léo, il a pas cette étrangeté que peut avoir Charles Denner, il a pas non plus cette féminité que peut avoir Depardieu dans le dernier métro ou La femme d'à côté. Moi, je trouve que ça marche très très bien, mais l'entente n'a pas été parfaite entre les deux, et beaucoup de gens imputent l'échec justement du film au moment de sa sortie au malentendu qu'il pouvait y avoir avec Belmondo dans un tel contre-emploi. Mais moi je trouve que le film est d'un lyrisme absolu, traversé par des fulgurances poétiques. C'est là aussi qu'on constate que Truffaut, qu'on associe surtout aux jolies choses, au charme, à l'humour, à des choses un peu légères, c'est aussi un grand styliste qui est capable d'aller très loin dans le mélodrame, dans la tragédie. Et c'est un film où de très nombreuses références cinématographiques sont mélangées, assumées, et je trouve que ça fonctionne très très bien, parce que c'est quand même un film qui est dédié à Jean Renoir, et on commence par un extrait de la Marseillaise. Ça se termine comme un film de Jean Renoir, puisqu'il y a une citation d'un plan qui est de la grande illusion. Mais, entre-temps, on passe par Hitchcock, on passe par la série B américaine, on passe même par Walt Disney, parce qu'il y a il y a un côté conte de fées dans le film.
Et puis Cocteau aussi, Cocteau, parce qu'il y a la clinique Heurtebise.
La clinique Heurtebise, absolument. Y a donc il a mis ça, tout ce qu'il aime, il a mis tout ce qu'il aime dans ce film.
Quand j'entendais l'extrait tout à l'heure, je me suis aperçu que dans ce film aussi, il y a le thème de l'amour perdu. De l'amour perdu à jamais, hein, c'est ce que dit Belmondo à Deneuve, et qui rejoint aussi la scène la plus tragique de L'homme qui aimait les femmes, où des nerfs se retrouvent face à une ancienne amante. Et je me disais qu'il y a un motif dont on parle finalement assez peu, Olivier Père, chez Truffaut, c'est l'irrémédiable. C'est quelque chose qui revient dans presque tous ses films.
Oui, ça c'est le côté tragique, oui, la perte, il y a forcément quelque chose de perdu qui vient de l'enfance, d'une enfance malheureuse, puisqu'enfin c'était un enfant qui n'était pas désiré, qui a dû se réfugier comme ça dans des passions secrètes qui étaient essentiellement, enfin en tout cas dès l'enfance, le cinéma et la littérature. Et puis alors c'est vrai que vous parlez de L'homme qui aimait les femmes, mais quand on parlait des liens secrets, des correspondances parfois évidentes, parfois secrètes, hein, comme chez Balzac entre les films de Truffaut, c'est quand même dans ce film qu'il y a la fameuse phrase « L'amour est une joie et une souffrance ».
Qu'on a entendu d'ailleurs dans la voix même de Truffaut.
Qu'on va réentendre des années plus tard dans Le Dernier Métro, exactement la même phrase avec la même actrice.
Qui porte le même prénom, enfin dont le personnage porte le même prénom dans La Sirène du Mississippi.
Il y a des correspondances à l'intérieur des films et à travers les films qui montrent à quel point Truffaut était hanté par des choses très profondes. Il avait finalement des centres d'intérêt qui étaient très limités, hein, dans la vie comme dans son œuvre. La littérature, le cinéma, les femmes évidemment, mais le reste il s'en moquait un peu, mais à chaque fois il creuse dans une direction un peu semblable, toujours il creuse toujours le même sillon, et c'est ça aussi qui est étonnant, parce que il y a une apparente diversité, hein, incroyable entre les films, entre des films très comiques, des films très tragiques, des films qui sont presque des films à sketch, des films qui sont centrés sur un seul personnage, des films en costume, des films contemporains, et pourtant ils parlent tous de la même chose, en tout cas ils parlent tous de deux ou trois sujets centraux chez lui.
Et donc, tous la même chose, évidemment, l'amour. On aurait pu prendre d'ailleurs un passage du même documentaire sur Arte.tv où il explique qu'il ne peut pas faire de documentaire, il ne peut pas faire de film sur l'actualité. Voilà. Qu'il ne peut pas faire de film politique. On a trouvé une archive France Culture où il parle justement aussi de son rapport à la politique, de son rapport citoyen, j'ai envie de dire.
La grande contradiction dans laquelle je me trouve sur le plan, disons, social, c'est que j'ai été formé comme marginal, je me suis senti marginal, puis peu à peu, grâce à ma passion quasi religieuse pour la chose qui m'intéressait, qui est le cinéma, religieuse, en tout cas exclusive, possessive, je suis, comment dirais-je, je suis entré de toute façon dans cette société et je m'y suis fait accepter, et éventuellement fêter. Et pourtant, je me sens toujours marginal, c'est-à-dire je suis incapable d'aller chercher une carte de vote et d'aller voter, parce que j'aurais une telle impression d'imposture, de faire semblant de... Ça me semblerait aussi peu naturel que de me lever pour chanter une chanson à la fin d'un repas de première communion. Donc, je n'arrive pas à me résoudre à être un citoyen.
Voilà, François Truffaut, c'est dans une archive assez rare, une archive France Culture. Je ne sais pas si ça permet d'expliquer son rapport, enfin, le fait qu'il n'y ait pas de film politique dans sa filmographie.
Et un petit peu plus loin, d'ailleurs, dans l'archive, qui est la grande traversée consacrée à François Truffaut, il y a 3 étés, je crois, il dit cette phrase terrible, il dit « tout se joue avant 10 ans ». Qui est terrible si on pense à ce que vous évoquiez tout à l'heure.
Il s'est construit avant 10 ans, ou en tout cas dans son enfance, quand il avait une dizaine d'années. D'ailleurs, tout est dit dans les 400 coups. Quand on voit Antoine Doinel qui a construit un hôtel à Balzac, il a comme ça une photo de Balzac avec une bougie qu'il allume. Il y a déjà ce culte voué à Balzac dès l'enfance, qui est caché comme ça dans un placard, qui prend feu d'ailleurs à un moment. Et il y a déjà tout Truffaut là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a la passion de Balzac, après ça va être la passion du cinéma, des femmes, de la littérature, mais il y a d'ailleurs, il y a un lien direct, on parlait des correspondances avec la Chambre Verte, c'est aussi construire un lieu secret voué à la femme, à l'épouse aimée et morte, qui d'ailleurs prend feu aussi à un moment, parce que il y a encore les bougies, les chandelles qui vont prendre feu dans la Chambre Verte, donc lui, je pense qu'il s'est construit dans l'enfance, l'adolescence. Il s'est évadé par la littérature. C'était effectivement un grand. Il a conservé cette forme de marginalité et d'associabilité totale. Alors que là aussi, c'est beaucoup de paradoxes. Il n'a pas du tout, caché son désir aussi d'embourgeoisement, de vivre dans le confort et dans un confort bourgeois. Il n'avait pas du tout de problème avec ça, puisque lui, au contraire de Louis Malle ou de Godard, il venait pas d'une grande famille bourgeoise, donc il avait rien à prouver de ce côté-là. Il a toujours eu une incroyable méfiance dans les œuvres engagées ou politiques, en tout cas sur les films sociaux ou politiques. Parce que là aussi, sa formation, ça avait été le cinéma hollywoodien qui faisait passer des idées, mais qui voulait pas faire passer des messages. En même temps, ça l'a pas empêché de signer une pétition au moment de la guerre d'Algérie, voilà, contre la guerre d'Algérie. Mais il l'a toujours fait avec discrétion, sans afficher des opinions politiques. D'ailleurs, c'est vrai que ça a fait souvent de lui un cinéaste démodé ou mal aimé.
Ou social traître, selon Godard.
Voilà, parce que c'était pas du tout. Alors, il a quand même. Il était totalement. Prenez même l'époque à contre-pied, parce qu'après mai 68, où. On remet tout en question, y compris l'éducation, l'enseignement, l'école. Lui, il fait L'enfant sauvage, qui est justement un film sur un hymne à la transmission et à l'éducation.
Donc ça se passe au 19e siècle, et c'est d'après l'histoire véridique de.
Mais c'est l'histoire d'un éducateur qui va aider un enfant, voilà, sauvage à entrer dans la société. Et lui, il disait, ben moi, contrairement à d'autres, c'est grâce à l'école que j'ai pu. Enfin, en tout cas, grâce à l'école buissonnière, mais disons, c'est grâce au livre, c'est grâce à l'éducation. Il avait pas du mépris pour la culture à une époque où c'était la mode. Après, c'est vrai qu'il fait L'homme qui aimait les femmes en plein féminisme, en plein MLF, donc ça peut passer pour une provocation, mais lui, il le voit même pas comme ça. Pour lui, voilà, il suit un chemin qui a souvent été, très presque en contradiction, en tout cas à côté de son époque, et donc il a évidemment refusé l'engagement politique, contrairement à des anciens amis et des collègues cinéastes comme Godard et... De là vient en partie leur brouille et leur rupture définitive au moment de la nuit américaine.
Oui, nuit américaine, et Godard lui écrit une lettre scellant la rupture.
oui, rupture très, très, très violente. En même temps, la nuit américaine, moi, c'est un film, c'est l'un des rares films de Truffaut avec lequel j'ai un problème, parce que je trouve qu'il exprime sa passion du cinéma à travers une expression extrêmement désuète du cinéma, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un réalisateur qui se tourne dans les studios de la Victorine. Ça n'a absolument rien à voir ni avec la Nouvelle Vague ni même avec les méthodes de Truffaut lui-même. Donc il montre sans doute volontairement, je ne sais pas, c'est aussi ce qui a permis au film d'avoir autant de succès, y compris aux États-Unis, une version un peu désuète du monde du cinéma, alors que selon moi, il réussit beaucoup mieux à exprimer tout ce qu'il a à dire sur l'enfance, par exemple, ou sur la mort. L'argent de poche ou la chambre verte sont des films que j'adore et que je trouve plus intéressants que La Nuit américaine, même si, comme le dit Mathieu Amalric, il y a quand même là aussi un point très intéressant de comparaison entre la Nuit américaine et L'argent de poche, c'est qu'on voit bien dans La Nuit américaine que qu'est-ce que c'est qu'un tournage? Eh ben, c'est une cour de récréation pour adultes. Et là, ça revient à ce que vous disiez, c'est qu'il reste un enfant et que le cinéma, c'est aussi une manière de continuer cette enfance en jouant, en recréant, en s'amusant sur un plateau de tournage ou avec une équipe, comme dans une cour de récréation des enfants qui s'amusent.
Mais vous parliez de son côté, justement, de sa haine du documentaire, de son côté presque... Pas opposé, mais imperméable à toutes les grandes vagues culturelles, politiques, etc. Et c'est vrai que quel meilleur endroit que le lieu de tournage et surtout des studios comme la Victorine.
Oui, même si lui-même a très peu tourné en studio, pour le coup, il était resté attaché à certains principes esthétiques de la nouvelle vague. Je pense qu'il y a dû y avoir un peu de studio quand même dans le dernier Métro, parce que c'était un film très cher où il y avait beaucoup de reconstitutions par rapport à l'époque. Mais même quand il tournait des films d'époque, justement, comme Les Deux Anglaises et Le Continent, ou L'Histoire d'Adèle H, ou L'Enfant Sauvage, il était totalement opposé à l'idée de reconstitution, qu'on voit les décors, les détails. Pour lui, c'était vraiment le plus important, c'était de se centrer sur les personnages, sur les visages. L'Histoire d'Adèle H, c'est quand même l'histoire d'un visage, quoi. C'est que le film est un gros plan sur le visage d'Isabelle Adjani ou des choses très très intimes comme L'Enfant Sauvage.
Dream. Oh, what a beautiful scene, c'est magnifique. Tropical water serene, colors of coral and cream, c'est magnifique.
Vous êtes bien sur RFI à l'écoute de Tous les cinémas du monde, une émission spéciale consacrée à François Truffaut ce samedi à l'occasion de la publication, de la parution d'un coffret de 8 DVD de 8 films restaurés chez Arte Éditions. Olivier Père en parlait un peu de l'insensibilité à l'époque, en tout cas directe, hein, de sa contemporanéité là des films de François Truffaut. Est-ce que ça permet aussi d'expliquer que finalement il ne passe aussi bien la rampe des années?
Bien sûr, comme il a toujours été totalement hermétique à la mode, et il ne s'est jamais démodé. Ce qui fait qu'on peut aujourd'hui revoir voir ou découvrir ses films avec le même intérêt, le même enthousiasme. C'est vrai qu'il était très très réticent à tout ce qui pouvait être les sujets à la mode. Il a même renoncé à certains projets parce qu'ils étaient trop ancrés dans l'air du temps ou que c'était des sujets dont on parlait trop. Non, il a vraiment suivi des idées qui étaient un peu des idées fixes, hein, des idées.
On retrouve l'obsession.
Des obsessions, ça c'est vraiment le maître mot quand même de ce cinéaste, comme d'autres grands cinéastes. Et en plus, il l'a fait de manière moins ostentatoire, c'est-à-dire qu'il y a des cinéastes obsessionnels, on voit qu'ils creusent toujours le même sillon et c'est de film en film. Là, comme je le disais, sous une apparente versatilité, il y a quand même cette obsession, cette fièvre. Et c'est vrai qu'il était... il était insensible à beaucoup de choses. Alors, il détestait manger, par exemple, ou il détestait sortir. Ça lui a permis de réaliser une œuvre, assez intemporelle, sur des sentiments humains qui sont, pour le coup, oui, très 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 intemporels. Voilà, au-delà de la passion, je pense que ces portraits d'hommes et surtout de femmes sont toujours aussi beau, toujours aussi actuel.
Alors, vous montrez la postérité de Truffaut, Olivier Père, à travers aussi donc le livret qui accompagne ce coffret DVD, puisque vous l'avez un peu expliqué. Vous avez cherché des jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, cinéastes français, pour parler de leur rapport à ces films-là. Je sais pas, Axel Roper, Arnaud Desplechin ou Christophe Honoré signent des beaux textes.
Olivia Sayas. Alors, il y a francophone, parce qu'il y a un Belge qui s'est glissé. Il y a Luc Dardenne, voilà. Qui parle de l'enfant sauvage, et c'est très intéressant parce que j'ai pensé à lui forcément par rapport à leur travail avec son frère sur des jeunes acteurs et sur des non-professionnels. Et en tout cas, pas pour Jean-Pierre, mais pour Luc, l'enfant sauvage avait été un choc, un film important, y compris par rapport à leur propre méthode. Oui, c'était très intéressant de faire ce travail. Alors, il y avait évidemment des cinéastes où ça apparaît très... Ils sont incontournables, si on veut parler de Truffaut. Hein. Quelqu'un comme Arnaud Desplechin se revendique de Bergman, de Truffaut, essentiellement. Et il y a une filiation évidente. Noémie Lvovsky aussi. J'ai pensé à des cinéastes qui sont passés par la critique et qui ont donc un rapport très fort à l'histoire du cinéma en général, l'histoire du cinéma français en particulier. Donc forcément intéressé par Truffaut, comme Assayas ou Serge Bozon. Il y a pas mal de cinéastes qui expliquent à quel point... qui mettent en relation leur rapport au cinéma de Truffaut, à certains films et à leur propre travail, à leur propre film. Ils ont été parfois confrontés aux mêmes problèmes, aux mêmes situations, aux mêmes idées, aux mêmes questionnements. Et puis des cinéastes. Voilà. Alors c'est vrai qu'il en manque. C'est vrai que je regrette je sais que Bruno Podalydès a voué un culte à L'homme qui aimait les femmes, que c'est un film de chevet. Il y aurait forcément eu d'autres, ou Rebecca Zlotowski qui a pas pu parler de L'homme qui aimait les femmes, qu'elle adore aussi. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai voulu une sélection plutôt intergénérationnelle, on va dire, et puis de gens qui ont un rapport très fort, de cinéastes qui ont un rapport très fort avec l'œuvre de Truffaut. Et c'est un petit panel, mais je pense que c'est un beau panel, parce que ce sont des gens... qui non seulement ont revu les films, les aiment, mais en parlent très bien, et y compris dans une forme de questionnement critique et de remise en question de certaines idées reçues ou de clichés qui entourent encore un peu parfois l'œuvre de Truffaut.
Et à l'étranger, parce que je crois que c'est dans le dossier de presse, on nous explique qu'il faudrait, enfin, on pourrait imaginer.
Ben oui, parce que c'est un peu frustrant de faire un livret comme ça qui accompagne un coffret avec que des cinéastes francophones. Si on avait eu le temps, plus de moyens, on aurait pu aussi, bien entendu, demander à Wes Anderson, à Martin Scorsese, à Steven Spielberg, à Kiyoshi Kurosawa, à beaucoup de cinéastes asiatiques, européens, américains, parce que l'œuvre de Truffaut, comme vous le disiez au début de cette émission, a énormément voyagé, et ce, dès le début, c'est-à-dire dès les 400 coups, dès l'explosion des 400 coups au Festival de Cannes. Truffaut est devenu un cinéaste, un jeune cinéaste de la nouvelle vague, mais surtout un cinéaste avec une renommée internationale, avec des films qui ont voyagé dans le monde entier, qui sont sortis dans le monde entier. Alors, c'est aussi une occasion de saluer le travail qui avait été fait par les films du Carrosse, associé de production, par la personne en charge des ventes internationales, de cette association avec les artistes associés, puisque le coffret réunit en fait la période où les films du Carrosse se sont associés avec les artistes associés, qui était la filiale française de United Artists, qui permettait de financer ces films, sans aucune contrainte, sans aucune Truffaut a bénéficié comme ça à la fois d'une liberté et de moyens qui étaient largement supérieurs à ceux des films du Carrosse. Alors ça, c'est Jean-Louis Lévy qui en parle très bien, puisque il a été l'agent de François Truffaut. Il a travaillé à Art Média avec Gérard Lebovici, qui était l'agent de Truffaut au moment où ce contrat a été noué. Mais c'est vrai que Truffaut a veillé personnellement aussi à ce que ses films soient bien reçus, compris, appréciés à l'étranger.
Il a beaucoup voyagé.
Il a même appris l'anglais, même si on sait que c'était aussi pour tourner. Il avait beaucoup de mal avec l'anglais, mais heureusement, il avait Helen Scott, qui était cette américaine qui est devenue un peu son ange gardien et sa correspondante aux États-Unis.
Et qui avait un peu une passion pour lui.
Qui avait une passion totale pour lui, hein, pour l'homme, pour les films. C'est elle qui a traduit les fameux entretiens avec Hitchcock, hein, qui a donné lieu au livre Hitchcock-Truffaut. Donc Truffaut s'était arrangé pour avoir quand même des passeurs, des correspondants, comme ça, des gens de confiance qui faisaient un excellent travail sur ses films à l'étranger. Évidemment, aux États-Unis, ça a été assez phénoménal, hein, très tôt, le succès, la notoriété de Truffaut aux États-Unis. Certains de ses films, comme L'Enfant Sauvage, Jules et Jim, encore aujourd'hui, quand on parle à des jeunes cinéastes américains, Truffaut, ça reste une référence. Ils ont vu tous ses films, ils adorent son cinéma. C'est pas seulement la génération des Spielberg ou même des Wes Anderson, c'est au-delà des gens beaucoup plus jeunes. Il a obtenu un Oscar pour La Nuit américaine. Donc c'est vrai que il avait comme ça, alors c'est un travail, hein, je pense qu'il a vraiment fait un travail de communication. Il était très très attentif à la réception de ses films en France, mais aussi à l'étranger, et ça a porté ses fruits encore aujourd'hui. Comme je le dis, sur presque tous les continents, il y a des grands cinéphiles truffaliens et surtout des cinéastes qui pensent beaucoup à lui et qui s'inspirent beaucoup de Truffaut encore.
Une dernière question, Olivier Père. Dans ce coffret de ces 8 films, est-ce qu'il y en a un qui a le plus votre préférence?
Écoutez, oui, forcément. Alors, je pense qu'il y en a qui sont de manière plus évidente des grands films ou des grands chefs-d'œuvre, hein, comme L'Enfant Sauvage ou comme L'Homme qui aimait les femmes. Moi, j'ai redécouvert avec beaucoup d'admiration l'histoire d'Adèle H, parce que c'est vrai qu'on oublie parfois à quel point Truffaut, c'était pas seulement des belles histoires ou des beaux dialogues, c'était aussi un grand formaliste. Il a travaillé avec un très grand chef opérateur, un très grand directeur de la photographie, Nestor Amendros. Ils ont fait beaucoup de films ensemble, et il y a des films comme L'Histoire d'Adèle H, qui est un film très très sombre, mais avec une lumière extraordinaire, qui est aussi une lumière qui vient du jaillissement, du rayonnement d'Isabelle Adjani, hein, très jeune et très très impressionnante dans ce film, même si c'est un film qui échappe presque à Truffaut, hein,
qui est vampirisé par son actrice.
Ce que disent Assayas ou Honoré, il y a une forme de vampirisation. Le film lui échappe parce qu'Adjani, déjà, elle a 19 ans, je crois. Elle s'empare complètement du film. Elle en fait un Adjani film, comme plus tard Camille Claudel ou Possession. Donc c'est assez fascinant de revoir ce film. Et comme je l'ai dit, La Sirène du Mississippi, pour moi, est un de mes Truffauts préférés. Oui.
Voilà, donc on encourage le Père Noël à se procurer ce beau coffret de 8 films restaurés de François Truffaut, édité chez Arte Édition. Merci Olivier Père. Tous les cinémas du monde, c'est merci. Fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Le Quéré
et Sophie Torlotin. À la réalisation, Fanny Renard.
La semaine prochaine, nous vous parlerons d'un autre coffret DVD exceptionnel, Forbidden Hollywood, Hollywood interdit, sur des trésors du cinéma américain des années 30. D'ici là, bonne semaine à tous.
Tous les cinémas du monde sur RFI.